Assalamu alaikum, shalom, bonjour. Nous sommes heureux de nous retrouver dans ce studio le mercredi 29 novembre 2023 et de vous savoir nombreux, très nombreux, à Lomé, au Togo, en Afrique et de par le monde entier pour communier avec nous au Club de la Presse, que ce soit sur les antennes de Canal FM ici à Lomé ou Radio Lumière à Neho, Radio La Paix, la voix des plateaux à Takpamé, Radio Centrale FM à Sokodé, Radio Sama FM à Baga, Niamtougou, Radio Daoul à Bassa, Radio Courtoisie à Dapaon, ou encore Radio Le Bénin, Ebene Radio, l'application Canal FM, ou encore la chaîne YouTube. Émission réalisée et mise en onde par Victor Bekoku, Michel Tomega et Kodjo Gérald Akoucha. Autour de moi, deux confrères déjà installés, je peux vous les présenter. Abbas Issaka de Le Mania Libéré, bonjour.
Bonjour Jaloux, bonjour à tous les auditeurs et autrices qui nous suivent en ce moment. Je fais aussi un coucou à notre ami commun, Yamba Yamba.
Mossi Yamba Yamba.
Yamba Yamba, j'espère qu'il se porte très bien.
Merci, oui. Nous le retrouvons aujourd'hui parce que c'est mercredi, son journal a paru, c'est Santé Éducation. Lui c'est Koku Gameli Chonyadji, Gadiel, bonjour.
Sassi, bonjour et bonjour à tous ceux qui nous écoutent ce matin. Heureux de retrouver encore à Canal FM.
Et comment vont nos parents sur la montagne? C'est Agbladome.
Agbladome, ils vont bien.
Sur la montagne à vous là-bas.
Ils vous saluent, ils vous écoutent très bien. C'est de fidèles auditeurs de l'émission
du Club, de la,
du Club de la Presse.
Et nous avons le plaisir, l'honneur d'être écoutés en mains endroits. Ainsi, les dames qui s'occupent de la commande publique dans un projet comme Waka Recip Togo. Tout à côté ici, madame, vous-même et vos collaboratrices, vos supérieurs, le Club de la Presse vous salue et vous remercie pour votre bienveillante fidélité d'écoute. Et aujourd'hui, vous allez nous écouter, vous parler de santé avec les dernières parutions de Santé Éducation. Et puis, le sujet politique numéro 1, c'est le Togo qui se retrouve en marche vers les élections régionales et législatives d'ici la fin du mois de mars 2024. Comment est-ce que les journaux perçoivent et analysent cette élection, ces élections? Nous allons en parler, tout comme les suites du rapport d'audit de la Cour des comptes sur la gestion des fonds COVID-19 qui n'a pas fini d'alimenter les débats, les commentaires, pourquoi pas la polémique. Et puis si nous avons le temps, nous allons le mettre sur les traces du Globetrotter. Si je vous dis qu'il était dernièrement dans une ville qui s'appelle Astana, placez cette ville d'Astana dans son pays, sur son continent, et vous trouverez celui dont nous allons parler aujourd'hui. Troisième confrère qui vient de nous rejoindre, c'est Fabrice Patom Petchesi. Bonjour.
Bonjour Sass, bonjour aux confrères ici présents. Bonjour à tous les techniciens de l'autre côté et bonjour à tous ceux qui nous suivent.
Merci, merci donc à vous. Nous attendons un quatrième confrère. Mais la pensée du jour, hein, comme c'est une tradition, et la véritable éducation consiste à pousser les gens à penser par eux-mêmes. C'est ce que nous enseigne aujourd'hui Noam Chomsky, quelqu'un que nous avons étudié dans nos cours de philosophie en terminale. La véritable éducation consiste à pousser les gens à penser par eux-mêmes, nous enseigne Noam Chomsky. Mais avant d'aborder les sujets proprement dits, Fabrice, je lis dans le Libéral paru aujourd'hui que toi-même et ton journal, vous faites un clin d'œil à nos confrères et amis qui se retrouvent toujours en prison, Loïc Lawson et Anani Soussou. Le Libéral qui écrit aujourd'hui: pour la libération de Loïc Lawson et Anani Soussou, après la levée de boucliers confraternels, l'heure du mea culpa, pour dire que si nos confrères sont là-bas, ce n'est pas parce que nous et que vous, nous ne faisons rien.
Oui, c'est bien ça. Et ça fait pratiquement, si je peux me le dire, presque 2 semaines hein, que nos confrères sont toujours en détention et vous avez constaté que lorsqu'ils ont été convoqués et puis incarcérés, et cela a entraîné une levée de boucliers au sein de la corporation qui est tout à fait normale et confraternelle, puisque c'est des journalistes qui étaient touchés, même si ce qu'on leur reproche, notamment le fait d'avoir utilisé les réseaux sociaux pour diffuser une information faite de telle sorte que le code de la presse ne les couvre pas, ça reste quand même des confrères. Et donc le réflexe de tout journaliste, c'est quand même d'être plus ou moins indigné par rapport à cette arrestation. Et donc beaucoup de choses ont été faites, il y a eu des communiqués ça et là pour condamner, des conférences de presse, des couloirs qui ont été faits, mais résultat, deux semaines après, en tout cas jusqu'à cet instant précis, et nos camarades sont toujours en détention. Et nous, on s'est dit, alors, qu'est-ce qu'il faut ? Est-ce qu'il faut faire ? Je crois qu'avec le recul, il faut reconnaître quand même que, visiblement, nos confrères n'ont pas réussi, pour l'instant, encore à apporter la preuve. Et nous sommes aujourd'hui dans une tendance vers, carrément, le pardon, le mea culpa, parce que quoi qu'on dise, ça fait déjà deux semaines, tout ce qui devait être fait a été fait, mais on n'a pas le résultat. Alors nous nous disons aujourd'hui que nous sommes prêts, en tout cas, au niveau des organisations de presse, on a échangé quand même, on s'est dit que tout ce qu'on peut faire pour qu'on puisse libérer nos confrères aujourd'hui, nous allons le faire. Et il nous a été dit que parfois nous avons pris certaines positions qui n'ont pas favorisé la décrispation de la situation. Alors donc, nous convions les uns et les autres à faire plus ou moins profil bas. De toutes les façons, pour l'instant, nous ne sommes pas en position de force parce que nous avons encore nos confrères en détention. C'est un peu une sorte de cessez-le-feu provisoire, le temps que peut-être on obtienne la libération de nos confrères. Et s'il faut, je ne le souhaite pas, reprendre les armes ou alors rester toujours dans la calmie. De toutes les façons, aujourd'hui, nous sommes obligés de faire profil bas parce que le rapport de force n'est pas en notre faveur. Et tout ce qu'on peut faire, nous avons des informations selon lesquelles il y a une volonté que les gens fassent amende honorable. Et s'ils peuvent le faire et que si ça peut entraîner leur libération, nous, c'est tout ce qui nous intéresse. Ce n'est pas une humiliation, nous nous estimons, pour quelqu'un de demander pardon s'il reconnaît qu'il a commis une faute. La faute, c'est quoi ? Et elle est professionnelle, c'est-à-dire que le montant avancé qu'on a reconnu après, qu'on a surestimé, et nous avons déjà fait le débat ici pour dire que ça va être, même si vous avez les preuves, ça va être difficile de les apporter, parce que les confrontations risquent de vous mettre dans une situation plus ou moins inconfortable. Il faut savoir quel montant il y avait, celui qui a pris, il a pris combien, il reste combien, tout ça, ça va être difficile de le prouver. Donc, je crois que nous sommes dans une situation où il n'est plus question de jeter de l'huile sur le feu, et il est question beaucoup plus de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que nos confrères recouvrent leur liberté. Et dans ce qui nous est demandé, nous tous qui avons condamné, j'en fais partie, j'ai condamné, j'ai exigé, je pensais que ça pouvait peut-être porter des fruits, mais avec le recul, on se rend compte que c'est des positions qui n'ont pas permis de changer quelque chose. Et aujourd'hui, il faut changer de fusil d'épaule, il faut aller un peu plus dans une sorte d'humilité pour dire que oui, on reconnaît avoir offensé quelqu'un et on lui demande pardon. Et nous espérons que ce pardon-là aura un retentissement positif dans les oreilles du plaignant.
Merci. Notre solidarité confraternelle à Loïc Lawson et à Nani Soussou, tout comme nous portons dans notre cœur confraternellement le confrère Stanis Bouyakera Tchiamala, le correspondant de Jeune Afrique, qui se retrouve également incarcéré en République démocratique du Congo depuis déjà de longues semaines. C'est pour dire que même si nous ne travaillons qu'avec nos bics et nos micros, nous faisons des fois face à de l'adversité. Et là, des confrères qui se retrouvent en prison, d'autres carrément qui en arrivent à perdre leur vie sur les champs de bataille, les confrères qui couvrent les affrontements entre le Hamas et Israël, et un peu partout, ces journalistes qui donnent leur vie
et qui donnent leur liberté juste pour informer, c'est notre sacerdoce. Nous l'attendons, il est arrivé. Et lui, c'est le moins mince des journalistes du Togo. Je n'ai pas dit le plus gros. Hein. C'est Bourahima Tchabore de Le Messager. Bonjour.
Oui, bonjour Sass. Bonjour aux auditeurs et aux auditrices de Canal FM. Bonjour aux confrères ici présents. Et toutes mes excuses pour ce léger retard.
Indépendant de ta
indépendant
volonté.
De
nous connaissons
volonté.
La formule. Merci. Eh bien, c'est parti. Santé, éducation, Gadiel, rebonjour.
Oui, ça c'est bonjour.
Commençons par cet article qui porte sur cette activité officiellement lancée depuis le 27 novembre, c'est-à-dire il y a 48 heures, et ce jusqu'au 1er décembre. Il s'agit de la campagne de vaccination contre le cancer du col de l'utérus. Santé, éducation nous en parle d'autant plus que quelques jours avant le démarrage de la campagne, une formation avait été dédiée aux journalistes, dont Santé Éducation.
Effectivement, on sait que la campagne a démarré, cette campagne qui touche les filles de, en tout cas de 9 à 13 ans dans les établissements scolaires. Et en tout cas pour les rédactions qui ont fait un tour dans cet établissement, la situation n'est pas vraiment, on risque de ne pas avoir les résultats qu'on voudrait. Tant plus que,
pour ce qui est du taux de filles effectivement
voilà,
vaccinées
voilà,
lors de la
fait,
campagne.
Tout à fait. Dans, en tout cas, là où nous sommes passés, les résultats ne sont pas ça. Et beaucoup de parents sont hésitants et ont interdit à leurs filles de se vacciner. Je pense que cela est dû quand même, comme les uns le disent, aux informations qui fuitent sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi aujourd'hui, le ministère de la Santé, en tout cas, toute institution ne peut plus fonctionner comme il y a de cela 20 ans. Est-ce que vous voyez? Parce que les réseaux sociaux sont là pour saper ce que vous allez faire. Donc, il faut que la communication au niveau de nos institutions républicaines soit forte et déterminante. Dans le cas contraire, on pourra entreprendre de grands projets, mais qui vont faire flop, malheureusement.
Et c'est ce que nous constatons, parce que la communication se retrouve encore une fois le parent pauvre de cas. Cette campagne. Ni le gouvernement par le ministère de la Santé, même ni même nos partenaires comme l'OMS et les bonnes volontés. Ouais. On a lancé la campagne, mais personne n'a pensé porter le message, sensibiliser l'opinion. Du coup, soit les gens ne savent rien de cette campagne, soit on en sait quelque chose. Mais par la magie des réseaux sociaux, c'est une d'autres campagnes d'intoxication qui ne disposent pas l'opinion à accepter cette...
Comme certains le disent, les réseaux sociaux ont bipé la campagne.
Ah oui, voilà. C'est vraiment dommage. Campagne, et pourtant, le cancer du col de l'utérus, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une maladie réelle. Et vous rappelez dans Santé Éducation que... le cancer du col de l'utérus occupe la deuxième place après le cancer du sein. Et pour les derniers chiffres qui sont au Togo, sur 595 cas enregistrés au Togo, on a enregistré 497 décès. Pour dire que quand ce cancer du col de l'utérus se déclenche, la suite, c'est pratiquement la mort.
Oui, c'est ça pourquoi vous vous rappelez du 13 au 17... septembre, pendant le marché du bien-être de la santé, nous avons fait le dépistage du cancer du col de l'utérus sur le site du MABES. Donc, c'est une réalité, c'est comme vous venez de le lire. Deuxième cancer au niveau des femmes dans notre pays. Mais malheureusement, les cas ont été en phase finale, donc ce qui fait que la prise en charge ne donne absolument pas les résultats qu'il faut. C'est sûr pourquoi il faut faire le dépistage et faire un traitement précoce pour sauver des vies. Ou bien se vacciner, comme cette campagne initiée par le ministère de la Santé. Voilà.
Alors, je crains que cette campagne ne se révèle un flop. Et on aura investi de l'argent, on aura investi des ressources, mais les résultats risquent de ne pas être au rendez-vous, de toute façon. Attendons la fin de la campagne, et avec l'évaluation que le ministère de la Santé et nos partenaires officiels feront officiellement. Et nous allons à une autre, je peux dire maladie, il s'agit de la sédentarité. parce que nous avons les moyens, nous voulons que la vie ne soit plus commode, hein, nous bougeons de moins en moins. Hein, nous bougeons de moins en moins. Or, je lis avec l'interview que vous a accordé le professeur René Baragou, qui travaille au CHU Sud-Ouest Olympio, quand nous restons en position assise ou couchée pendant plus de 8 heures, c'est que sans le savoir et sans le vouloir, nous faisons augmenter le risque de mortalité.
Malheureusement, voilà. Donc, la sédentarité, c'est un fait qui touche tous aujourd'hui hein, pour notre vie moderne, hein, comme vous venez de le dire, les moyens de déplacement, les moyens de communication, le divertissement qui sont là. On peut passer tout à l'heure 7 heures de temps devant une télé sans le savoir. Mm-hmm. On peut passer 7 heures de temps assis à travailler au bureau, ce qui arrive à beaucoup de gens malheureusement. Et ça, c'est un phénomène qui tue, il faut le dire comme ça. La sédentarité, aujourd'hui, c'est un phénomène qui tue parce que c'est le lit de plusieurs maladies chroniques. Et aujourd'hui, pour cette interview, le message est lancé au chef d'entreprise, au chef de service. Alors, quand vous avez du personnel, il faut commencer par avoir une communication de santé sur le lieu de travail. C'est absolument important. Sinon, vous allez voir que beaucoup de professionnels traînent avec des maladies chroniques et vous allez voir, c'est à tel œil d'apprendre tel médicament, à tel œil d'apprendre tel médicament. Donc, la sédentarité, c'est un mal et cela a un produit, c'est de bouger.
Mais avant le produit, encore les aspects de cette maladie qu'est la sédentarité multiplie par deux le risque de maladies cardiovasculaires, à savoir l'hypertension artérielle, les crises cardiaques, les AVC, les insuffisances cardiaques. Cette sédentarité augmente également le risque de diabète de type 2, d'obésité, de troubles lipidiques, d'ostéoporose, de cancer de côlon, d'anxiété, de dépression. Alors, nous, et maintenant, les remèdes, c'est bouger autant que possible.
C'est bouger, voilà, c'est bouger, c'est se donner cette conscience de savoir que quand nous vivons, nous mangeons, nous travaillons, mais le menu aussi, dans ce menu de manger, travailler et autres, il faut aussi bouger. C'est absolument important pour notre santé. Quand vous mangez, vous ne bougez pas. Quand vous travaillez assis pendant des heures, vous ne bougez pas, vous faites du tort. Vous faites du tort au cœur, au cerveau, à plusieurs organes vitaux de notre organisme. Donc, c'est absolument important que nous regardions cela. Et c'est un message individuel. Et aussi, c'est un message qui s'adresse aux entreprises.
Et le professeur René Baragou qui nous recommande hein, de bouger le maximum possible. Hein, si on le peut, hein, on peut répondre aux appels téléphoniques en position debout ou encore hein, arrêter sa moto, sa voiture à 500 mètres de Canal FM pour voilà. Marcher. Hein, vous garez par exemple un peu plus loin, vous marchez pour voilà. Venir. Et si c'est possible, vous travaillez debout et prendre plutôt les escaliers que l'ascenseur et prendre de temps en temps des pauses actives, c'est-à-dire se lever de son bureau, aller vers son collègue, discuter un peu avec lui une, deux minutes, à condition que vous ne le perturbiez pas dans son travail, et puis on revient s'asseoir.
Oui, et je souhaiterais que peut-être en 2024, on puisse animer le club de la presse debout aussi, hein. Voilà, ça fait du bien au
Si tu le veux, on peut commencer même aujourd'hui même.
Elle se le dit.
Et bien prochainement.
Prochainement.
Continue avec une autre maladie dont personnellement je souffre de temps en temps, pour ne pas dire beaucoup, c'est le torticolis. Alors, Gadiel, de quoi s'agit-il?
Le torticolis, c'est un mal qui touche au pouls, aux articulations du pouls. Mm-hmm. Et cela, sa première cause, c'est... On a souvent c'est des mouvements brusques hein, qui peuvent conduire à cela. Et cela se caractérise par une vive douleur.
Ça fait très mal.
Ça fait très mal. Voilà. Vous avez le cou, votre cou est bloqué. Hein, vous ne pouvez pas le tourner dans un sens ou dans l'autre parce que la douleur vous attend de ce côté-là. Et attention pour le torticolis, il faut rapidement aller voir un traitant à l'hôpital pour des soins. Sinon, cela peut avoir d'autres conséquences.
Oh, malheureusement, quand ça nous arrive, nous avons le réflexe de vouloir masser le cou.
Quels sont les résultats?
Non, pas seulement que le cou. Moi, je me rappelle au village, on cherche une brindille. de balai et puis essaie de tendre ça avec une corde et on met, on estime que
c'est toi d'ici
deux jours. Non, attends, il y a beaucoup de choses qui sont. Beaucoup de nos camarades sont passés et on dit d'ici deux jours ça va passer. Pourtant, il y a l'hôpital où il fallait aller. Bon, c'est vrai que c'était une méconnaissance par rapport à ce que Gadiel dit. C'est très important qu'on aille à l'hôpital lorsque ça arrive et d'oublier les tics que nous avions souvent l'habitude de faire.
Donc, quand on se mal là, il faut aller voir un spécialiste.
Il faut aller à l'hôpital parce que, en tout cas, ce n'est pas un mal qu'on prend en charge à la maison. Vous avez quoi pour faire la prise en charge? C'est vrai que vous allez mettre du baume, voilà, tout ça. Mais attention parce que ça dépend de l'atteinte au niveau des muscles, du coup. Et si on ne fait pas attention, cela peut engager d'autres choses.
Merci. Ces trois articles que nous avons prélevés comme ça artificiellement, mais il y en a bien d'autres. Hein. Par exemple, ces aliments qui purifient notre sang, ou encore quelle est la place de la nutrition dans la prise en charge médicale, hein, ou encore, ça doit intéresser uniquement ceux qui sont mariés, hein, c'est préserver l'intensité sexuelle dans le couple. Jusqu'à quelle proportion, Gaziel?
À toutes les proportions. À toutes les proportions.
Mais à convenance de monsieur et de madame.
Bien sûr, on parle au couple marié. Hein. On parle bien du couple marié.
Oui, voilà. Parce qu'il y a des gens ici autour de la table, ils sont gourmands. Quand ils commencent, on ne sait pas les arrêter. Ils se connaissent.
Non, bon, il faut
manger. Je n'ai pas donné de nom.
Il faut manger conformément à sa forme.
Merci beaucoup. Et bien, sujet politique numéro 1 depuis quelques heures. Ceux qui ont écouté ce matin une grande radio internationale, RFI, pour ne pas la nommer, s'en sont encore rendus compte. C'est le Togo qui se retrouve relancé en marche vers des élections régionales et législatives. Alors, revue de presse avec le confrère La Dépêche qui titre aujourd'hui « Les législatives et régionales prévues au plus tard fin mars 2024 », c'est-à-dire dans 4 mois maximum, pendant que Actu Express se demande « Avec quel fichier électoral irons-nous à ces élections ?» Et La Dépêche qui revient et écrit « Pour la transparence du fichier électoral, les organisations de la société civile ont dénoncé, comme d'autres acteurs politiques, mais l'Organisation internationale de la francophonie s'est justifiée dans sa dernière sortie, réaction même du... Enfin, ce sujet même qui s'est transporté au Conseil des ministres tenu le samedi 25 septembre, novembre dernier. Le Mania Libéré nous rappelle combien nous sommes sur le fichier électoral. C'est 4 203 700 électeurs qui sont attendus pour les élections à venir. Le libéral écrit, lui, que la balle se retrouve désormais dans le camp de la CENI pour un chronogramme. Le messager rappelle également que le gouvernement appelle la CENI à proposer un chronogramme. Et dans l'ambiance générale, le triangle des enjeux souhaite la liberté de tous les prisonniers d'opinion ainsi que la restauration du droit de manifestation, de manifester pacifiquement pour la bonne tenue de ces élections. Abbas, voilà le sujet politique numéro 1 de l'heure dans notre pays.
Vraiment, c'est le sujet politique et le sujet d'actualité puisque c'est sorti en même temps fraîchement du Conseil des ministres dont le chef de l'État a donné injonction au gouvernement.
Instruction
au gouvernement de prendre toutes les mesures pour que ces élections qui devaient se tenir le mois prochain, en décembre prochain, que ce scrutin ait lieu le premier trimestre du mois,
au plus tard la fin du
premier trimestre. Donc aujourd'hui, il est parti, le Conseil des ministres est parti du constat de l'OIF, de l'audit de l'OIF qui a dit que le fichier est aujourd'hui fiable et suffisamment fiable pour que les Togolais puissent aller à ces élections. Et ainsi, il a été demandé à la CIP de prendre des dispositions également pour proposer un chronogramme au gouvernement qui va l'entériner. Donc, la balle est aujourd'hui dans le camp de la CENI qui doit précipiter parce que après ces glissements que nous avons suivis, il ne faudrait pas qu'on nous signale encore d'autres problèmes pour dire que les 3 mois et qui arrive les 4 mois qui arrivent, que la CENI n'est pas prête et qu'il n'y a pas de moyens, ou bien que le gouvernement n'a pas de moyens, il ne dispose pas de moyens. Il faudrait faire de telle sorte qu'on puisse, avant le, au plus grand tard, le 31 mars, ces élections puissent se tenir. Mm-hmm. Que les gens sachent le chronogramme. Est-ce qu'on va commencer par les régionales, ou bien est-ce qu'on va commencer par les législatives, ou alors elles seront couplées. Mm-hmm. Donc, que la CENI nous situe et situe l'opinion nationale et internationale, mm-hmm. puisque les uns et les autres, au niveau des partis politiques, on a toujours dit qu'ils ne sont pas encore prêts parce qu'ils ne connaissent pas l'heure, ils ne peuvent pas rester là à faire des révisions sans savoir la date de l'examen. Mm-hmm. Donc, il faudrait qu'aujourd'hui, les uns et les autres connaissent la date des examens. On prépare un bac, donc on ne connaît pas la date du bac. Donc, il faudrait que la CENI puisse répondre à tout le monde dans les plus brefs délais.
Au plus tôt. Mais Fabrice, le gouvernement qui demande au à la CENI de proposer le chronogramme, mais en attendant le chronogramme de la CENI, le gouvernement a fixé le deadline. Ce sera au plus tard, fin premier trimestre 2024. Sauf que le gouvernement n'a pas dit, ou bien n'a pas suffisamment dit, pourquoi les élections que le chef de l'État lui-même avait annoncées en début d'année, pour au plus tard fin décembre 2023, le gouvernement n'a plus rien dit. Pourquoi les élections n'auront pas pu avoir lieu d'ici la fin de l'année 2023?
Oui, ils n'ont rien dit, mais ça saute aux yeux. En tout cas, tous les Togolais savaient qu'à la Luru allaient les choses, ça devenait un peu difficile et compliqué de parler d'élections en 2023, puisque on avait déjà projeté ces élections. Là, on avait dit que 2023 devait être une année électorale. Et au fil du temps, le temps passait, mais il n'y avait rien à mettre sous la dent. Et donc aujourd'hui, pratiquement à un mois de la fin de l'année, ça serait quand même difficile qu'on nous dise encore que ces élections-là. Donc le report, ou du moins le glissement là qu'on constate, était prévisible. Alors maintenant, c'est pour cela moi je dis qu'en réalité c'est la CENI qui va vraiment nous situer, parce que ça reste encore une projection. On a dit premier trimestre, au plus tard, à la fin du premier trimestre de la nouvelle année. Bon, on nous avait dit aussi qu'en 2023, on va les organiser. Bon, donc, c'est le jour où la CENI va nous sortir un chronogramme. Je suis d'accord avec les acteurs politiques qui parlent de date, parce que la date permet une meilleure organisation. Parce que vous ne pouvez pas, toutes les stratégies que vous allez mettre en œuvre, elles doivent se faire à travers un chronogramme bien défini. Et donc, aussi longtemps qu'on n'aura pas les dates précises, ça va être un peu difficile. Mais on peut dire qu'il y a un grand pas quand même qui a été franchi, parce que même si c'est la CENI de façon indépendante qui organise les élections, il y a quand même l'œil du ministère de l'administration territoriale là-dedans. Il ne faudrait pas l'ignorer. Et je crois que c'est à l'issue de sa communication que le gouvernement s'est dit « bon, tiens ». Alors, nous avons aujourd'hui tous les éléments qui peuvent nous permettre d'avoir des élections dans les premiers mois de la nouvelle année qui arrive. Donc, je crois qu'aujourd'hui, ça clôt plus ou moins, pas totalement, parce que, comme je le dis, il faut un chronogramme de la CENI pour situer, mais ça clôt en quelque sorte un débat qu'on a eu depuis quelque temps au sein de la classe politique, où à un moment donné, on se demande s'il y aura élection ou pas. Mais ça relance un peu le débat qu'on a toujours eu ici par rapport au calendrier électoral. Dans d'autres pays, on sait quand est-ce qu'on organisera. Mm-hmm. Aux États-Unis, on sait quand est-ce qu'on organise une présidentielle. On sait quand est-ce que le chef de l'État prend fonction. C'est des dates presque fixes. Je crois qu'il va falloir qu'on fasse l'effort. Parce que déjà en 2013, on devait organiser les législatives en 2012. Oui. On les avait organisées en 2013. Donc il y a de ces décalages-là.
Mais justement, en 2012, pendant que l'Assemblée élue, en octobre 2007, oui, était censé prendre fin, il y avait une situation un peu de politique. Oui. Et si bien que le glissement de 2012 à 2013 avait été le fruit d'un accord entre le gouvernement et les partis politiques à l'époque. Oui. Oui. Sauf que cette fois-ci, à ma connaissance, il n'y a plus de crise politique au Togo. Oui. Et à ma connaissance, c'est le gouvernement qui décide encore unilatéralement, oui, de chevaucher sur l'année 2024 sans concertation préalable avec les partis politiques.
Ben, comme je, de toutes les façons, comme je le disais, ça sautait aux yeux que On ne pouvait pas atterrir ces élections-là. Aujourd'hui même, c'est pour cela, moi, je dis oui, c'est un grand pas, mais on sera définitivement fixé le jour où la CENI nous brandira un chronogramme. Parce qu'effectivement, nous sommes dans une situation délicate au Togo. L'accès à tout le pays n'est pas facile, parce qu'aujourd'hui, quand vous voulez aller dans la région des savanes, surtout quand vous êtes journaliste, au niveau de Naboulougou, on va vous demander si
déjà
vous,
dans la Kéran.
Dans la Kéran, on va vous demander si vous avez l'autorisation du ministre de la Sécurité avant d'arriver dans ces lieux. Ça, peut-être qu'il faut aller sur le terrain pour le constater. Et donc, ça voudrait dire que ça fait partie des éléments quand même qui risquent, si c'est toujours d'actualité, compliquer un peu la tâche par rapport à la tenue des élections. Et on sait que ce n'est pas fait pour un rien. On connaît la situation un peu dans la région des savanes qui est toujours sous état d'urgence sécuritaire. Et donc, pour une élection, il faudra aller dans les coins et recoins du pays. Alors, c'est une autre arête dans la gorge du gouvernement. La situation dans les savanes en période électorale, comment est-ce que ça va se passer? Je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire.
Là, tu attires notre attention sur un point également très important et très pertinent. Bouraïma, je ne sais pas si le gouvernement a suffisamment communiqué là-dessus, mais aujourd'hui, on n'aventure plus au nord du Togo comme on veut. Comme l'a dit Fabrice, même journaliste, arrivé à un moment, il faudra montrer patte blanche. Et ce n'est pas seulement pour les journalistes, même pour les missions diplomatiques, même les missions du FMI, de la Banque mondiale et autres. Avant d'aller au nord du Togo, dans le Grand Nord, il faudra avoir une autorisation. Ça veut dire que c'est un paramètre dont nous devrons tenir compte quand la CENI aura annoncé son chronogramme et que la campagne sera ouvertement lancée.
Il ne faut même pas attendre que la CENI annonce son chronogramme. Si Fabrice l'a dit, j'estime qu'il a déjà fait l'expérience. Heureusement, il a dit merci à lui parce que moi, je n'étais pas au courant.
Moi aussi, je le savais un peu. Même pour les missions diplomatiques, avant d'aller dans les savanes, il faut avoir une autorisation.
Moi, je n'étais pas au courant. Merci à Fabrice pour cette information.
Mais il est président.
Je pense que ceux qui nous suivent en ce moment également saisiront l'occasion pour quand même se rendre compte que désormais, ce n'est pas facile quand même d'aller au Grand Nord. Et je pense que le gouvernement a tenu compte de tout ça là. Il faut tenir compte de tout ça là dans l'établissement d'un planning pour que les élections puissent avoir lieu. Il faut quand même qu'on puisse se rendre à l'évidence que les gens peuvent faire campagne dans le Grand Nord, parce que le Togo, c'est jusqu'à Saint-Cassé et au-delà, et dans les zones où la situation sécuritaire est un peu délicate. Donc je pense que tous ces paramètres, il faut tenir compte de tout ça pour pouvoir établir un chronogramme, pour pouvoir établir, fixer une date. Et moi, j'ai comme l'impression que le gouvernement, effectivement, pense à cela, d'où l'échelonnement ou bien peut-être le retard qui a fait partie du fait que les élections ne puissent pas avoir lieu. Donc, tout ça, là, sont des paramètres qu'il faut prendre en compte. Donc, nous attendons, le confrère l'a dit, que la CENI puisse fixer un chronogramme pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Mais j'ai cru entendre également, de par le passé, qu'il y a beaucoup de responsables politiques qui ont souhaité à ce qu'on puisse repousser quand même ces élections pour pouvoir bien les organiser. Et je pense que l'audit qui a été sollicité par, je crois, les acteurs politiques fait partie de ce paramètre.
L'audit
du fichier.
Ah, là, c'est le gouvernement qui a demandé à l'OIA.
Justement. Mm-hmm. Et c'était une doléance qui ça avait été exprimée par les acteurs politiques. Ouais. Ça a été dit.
C'est sur la base des travaux au sein de la concertation des acteurs politiques et du CPD que le gouvernement a
tenu compte de ça. N'oubliez pas que nous sommes en train d'avancer, nous sommes en train de vouloir coupler les régionales et les législatives.
Ce n'est pas dit officiellement.
Non, mais attends, nous sommes des journalistes, on a quand même les informations. Nous sommes en train de vouloir les faire. Et maintenant, dans ce tas de faits, c'est un peu délicat. Il faut voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour ne pas rater. Ou du moins faire en sorte que les ratés soient un peu moindres. Réduire le risque des ratés. Donc, prendre le temps de pouvoir bien les organiser, je pense que c'est une chose. J'ai lu une réflexion de Jerry Tama qui faisait des suggestions. Et j'ai trouvé ces suggestions aussi pertinentes. Le fait que lorsqu'il y a un certain nombre de choses, il faut concerter, il faut voir comment est-ce qu'il faut faire pour toucher les acteurs politiques dans l'organisation de ces élections. Donc moi, je pense que tout concourt au bien, au fait que il faut que les élections là puissent se passer de façon à ce qu'il n'y ait pas contestation. Nous avons vu dans le pays de par le passé où les choses s'organisaient, on dit souvent que ce sont les imbéciles qui ne changent pas. Avec ce qui s'est passé au niveau des élections passées, je pense que le gouvernement prend de pouvoir faire en tout qu'il y ait moins de contestation par rapport à l'organisation des élections. Et le fait de dire que c'est le premier trimestre, pour le moment, ce sont des rumeurs, on attend que cela soit confirmé, on attend que le ASENI nous confirme la date, que c'est le premier trimestre de l'année 2024. Je pense que c'est une bonne chose de faire en sorte
c'est une projection
officielle. C'est une projection, ok, d'accord.
Bon, donc, je pense que tout compte fait. La parole d'un chef d'État, oui, ça a quand même son poids. C'est quand le président instruit que les élections régionales et législatives devront avoir lieu au plus tard fin premier trimestre 2024, et le gouvernement et la CENI et les partis politiques et nous tous, les biens, nous devons nous mettre en mouvement.
Non, il n'y a pas de problème.
Que ça soit atteint. Mais est-ce que on peut se poser des questions? D'ici fin mars, d'ici la fin du premier trimestre 2024, c'est grosso modo dans 4 mois. Or, il y a des étapes essentielles, il y a des tâches incontournables à faire. Nous avons la CENI au plan national, nous avons les CELI au plan des préfectures, même de certaines communes, mais nous n'avons pas encore les membres des bureaux de vote. Il faut du temps pour les nommer, il faut du temps pour les former. Il faut du temps pour la CENI d'avoir tout son matériel, les isoloirs, les urnes, les encres indélébiles, les registres, tout ça là. Et Abbas, est-ce que la CENI, est-ce que nous avons, est-ce que le temps qui reste devant nous suffit pour mettre toutes les instances en place, commander, obtenir et s'assurer tous les matériels? Et également que les partis politiques se mettent en mouvement.
Oui, si la volonté y est, on peut y arriver, parce que c'est les moyens et la volonté. Par rapport à la nomination des membres des bureaux de vote, ça aussi, il n'y a pas de problème. Ça peut se faire si la CENI décide aujourd'hui de commencer le travail comme ça a été demandé. Les membres des bureaux de vote peuvent être désignés pour se former.
Mais ces membres-là viennent de certaines entités, notamment les partis politiques, de la majorité, de la minorité.
C'est que les partis politiques, tous ces acteurs-là doivent se préparer en conséquence et savoir qui je vais envoyer au niveau des bureaux de vote pour être formés. Donc ce n'est pas qu'on va aller désigner les gens en l'air comme ça pour dire que tu vas rester, toi tu vas pas. Donc c'est des préparatifs. Et comme c'est pour ça que les partis politiques demandent le chronogramme pour qu'ils puissent se préparer. Aujourd'hui, qu'il y a déjà une projection sur le premier trimestre de l'année 2024. Les autres vont se préparer pour dire voilà ceux-là que nous allons. Peut-être que les discussions ont déjà commencé entre la CENI et les partis politiques et les organisations qui souhaiteraient participer à ces élections. Quant au matériel de travail, c'est simple, on peut les avoir dans un bref délai.
Mais il y a un processus, il faut d'abord passer les commandes avec l'autorité de régulation des marchés publics pour éviter les problèmes du fonds Covid. Il y a des délais, il y a des procédures pour passer la commande, que les gens livrent, qu'on s'assure, qu'on réceptionne et tout ça là.
Mais si on a pu faire les commandes pour faire le recensement général électoral, c'est que ces commandes là devaient être ensemble dans ce lot là. Parce que tel que tu le dis, c'est tout a été étudié avant que le gouvernement, le chef de l'État et le gouvernement ne décident de dire que d'ici la fin du premier trimestre de l'année 2024, il faut que les élections aient lieu. Si tous ces paramètres-là n'ont pas été étudiés, on ne pouvait pas dire que ça va se tenir le premier trimestre de l'année 2024. C'est peut-être tous ces paramètres-là qui ont fait qu'il y a un glissement également, ajouté au problème de la sécurité qui prévaut dans le nord du pays, afin de permettre à tout le monde de pouvoir faire la campagne électorale. Donc, si, je dis, les moyens sont mis en place comme ça, on pourrait arriver à tenir l'élection le premier trimestre de l'année 2024.
Merci Fabrice. Je voudrais maintenant qu'on s'intéresse aux organes qui interviennent dans l'organisation de ces élections. D'abord la CENI.
courant semaine passée, je crois, la DMP, dans une déclaration, a relevé que les membres de la CENI ont vu leur mandat expirer depuis le mois de mars 2023. Pour la DMP, la CENI, la composition, n'est plus légalement habilité à être là et organiser les élections. Autre organe, et ce n'est pas des moindres, c'est la Cour constitutionnelle. Selon la loi, il devrait être, je crois, 9. Mais parce que nous n'avons pas encore le Sénat pour désigner 2, ils étaient réduits à 7. Mais entre-temps, cette Cour constitutionnelle a perdu son président dès le mois de mai. À ma connaissance, on n'a pas encore procédé à la nomination d'un nouveau président de la Cour constitutionnelle. Or, la Cour constitutionnelle intervient dans la certification des résultats finaux des élections législatives et même valider les candidats avant l'ouverture de la campagne. Alors, est-ce que cela également pourrait être fait dans un délai raisonnable avant que nous allions à ces élections, Fabrice?
Oui, au niveau de la Cour suprême, je crois, Cour constitutionnelle, pardon, oui. Je crois que effectivement la préoccupation est de mise, hein, puisque c'est le président, c'est pas un simple membre, c'est le président qui n'est plus de ce monde. Alors, mais peut-être qu'il faut revisiter les tests de la Cour constitutionnelle pour voir qu'est-ce qui se passe lorsque le président n'est pas là. Est-ce que les autres membres peuvent siéger, prendre des décisions? Mais je crois savoir que depuis le décès d'Abdou Assouma, cette Cour doit forcément fonctionner et donc elle devra faire le travail. Mais on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui empêche qu'on nomme un nouveau président de la Cour constitutionnelle, tout simplement. Je crois que c'est le plus simple, le plus facile à faire.
Mais il semble que ce qui paraît facile,
c'est
plutôt plus difficile à faire.
Je ne peux pas. Avant Abdou Assouma, il y a eu Atchou, Kofi, Amégan, je crois. Et après Abdou Assouma, je ne pense pas que ce soit quand même des gens irremplaçables. On a le Togo à de grands juristes, il y a des talents, je crois qu'il faut juste faire un bon casting et trouver un nouveau président pour la Cour constitutionnelle. Mais au niveau des autres institutions aussi, ça flotte. Ça flotte parce que toutes les institutions de la République interviennent dans l'organisation des élections. Bon, la HAC, elle est en place. Peut-être qu'on fait avec l'équipe qu'on va faire avec l'équipe qui est encore là et dont le mandat est terminé. La CNDH, idem, elle n'est même pas au complet. Et là-bas aussi, la présidente n'est plus. Il y a le juge Sonvi qui assume plus ou moins l'intérim. Bon, donc voilà, au niveau, ça tangue un peu au niveau des institutions. Mais je continue par le dire, peut-être qu'elle fonctionne comme cela. Mais ça va apparaître plus clair au niveau de l'opinion si on pourvoyait au remplacement de ceux qui pratiquement ne vivent plus. Maintenant, en ce qui concerne la CENI elle-même, je crois qu'ils ont été renouvelés, et je ne sais pas si ça fait un an, hein. Bon, donc ils n'ont organisé aucune élection, puisque après la dernière, il y a eu des réaménagements qui ont été faits. Donc pour moi, il n'y a pas de débat au niveau des membres de la CENI. Mais je me dis que normalement, jusqu'à la mi-décembre, il faudra qu'on ait ce chronogramme-là. Parce qu'il y a des délais constitutionnels, quand est-ce qu'on va convoquer le corps électoral et tout cela. Et pour moi, faut pas attendre que l'année démarre même avant qu'on ait ce chronogramme-là. Et j'estime que peut-être qu'ils l'ont déjà, il ne reste que la date de sa publication.
Et puis autre tâche aussi, il faudra dans le chronogramme que les partis politiques, les groupes de partis, les candidats indépendants sachent à partir de quelle date ils peuvent déposer leur candidature, l'ouverture du dépôt, la clôture des dépôts, le temps que la CENI analyse et envoie à la Cour constitutionnelle. Si entre-temps la Haute Cour a son président, qu'on communique la liste définitive des candidats, que ceux-ci proposent leur couleur, nom et prénom devant figurer dans le bulletin de vote. Et tout ça là, ça a besoin d'un minimum de temps. Et Bourema, c'est toi qui as lâché le mot. Nous savons déjà comment les partis de l'opposition peuvent être prompts dans la contestation. Oui. On l'a vu avec le fichier électoral.
Oui.
Il faudra pas que le gouvernement prête le flanc encore aux partis de l'opposition de trouver des raisons de contester la façon dont ces élections vont se dérouler.
Non, votre inquiétude, elle est bien fondée. Et puis, vous avez dit quelque chose lorsque je parlais. Vous avez dit que c'est comme ça. Lorsque c'est le chef de l'État lui-même qui fixe quand même un canevas et qui fixe le délai,
qui donne une indication,
je pense que c'est une parole qui est donnée. Et quand vous regardez les institutions dont le confrère vient de parler tout à l'heure, qui nomme ces institutions, qui met ces institutions en place, c'est le gouvernement et par ricochet, le chef de l'État. Donc moi j'estime que si le chef de l'État a fait cette indication, ce qu'il est sûr, que évidemment, dans la foulée, toutes ces institutions vont se mettre en place. Peut-être, et il y en aura qui ne vont pas totalement se mettre en place, mais qui peut fonctionner avec. Tout compte fait, il y a une indication, et je pense que le gouvernement sait que l'indication qu'il a eu à fixer nécessite un certain nombre de choses à mettre en place avant de pouvoir atteindre le premier trimestre, la fin du premier trimestre 2024. Donc, moi, je pense que tout ça là doit être pris en compte pour éviter que cette élection soit organisée de manière bâclée. Et je crois savoir qu'en ce moment, la CENI doit se mettre en place parce que l'autre fois, à la sortie du Conseil des ministres, on a comme l'impression qu'on leur a mis le feu sur les fesses avec cette indication donnée par le gouvernement, donnée par le chef de l'État. Donc, on va attendre dans les jours à venir pour voir ce qu'il en sera. Et comme vous l'avez dit, il faut éviter absolument que cette élection soit organisée de manière bâclée, de manière à ce qu'il y ait des contestations. Ce n'est pas bien.
Mais parfois, on a l'impression que le gouvernement oublie, hein. On peut oublier que il y a la présidence de la Cour constitutionnelle, le poste du président est vacant.
Nous sommes en train de parler.
Vous vous rappelez, pour la prestation de serment, notamment on a nommé quelqu'un, c'est quoi le poste de Barry Moussa Barker? C'est chancelier.
Le chancelier des ordres nationaux.
Oui, ben c'est dans la foulée, on s'est rappelé qu'il fallait quelqu'un qui remettent qui joue un rôle ce jour-là, oui. Et notamment il a été nommé, donc ça donne l'impression comme si parfois on oublie.
Alors que Bourema, si le gouvernement écoutait le club La Presse, il se rappellerait ce qu'ils auraient oublié.
Non, le gouvernement écoute le club de la presse.
Le rappelons.
Ouais, c'est pour ajouter que je sais pas ce que l'Assemblée nationale attend, parce que il y a longtemps de cela que l'Assemblée nationale a lancé un appel à candidature pour le renouvellement, bien pour le recrutement des deux membres de la Cour constitutionnelle.
Oui.
Je ne sais pas où ils ont laissé ce dossier-là, cet appel d'offres. Est-ce qu'il y a eu des candidatures ou pas? Donc l'Assemblée nationale doit refouiller dans ses casiers pour voir là où elle a laissé les dossiers de candidature qui peut-être qui lui seraient arrivés,
oui.
Et nous donner, parce que c'est à elle de nommer et de lire,
oui.
En son sein. Et c'est après que le chef de l'État lui nomme le président de la Cour constitutionnelle. Donc on attend.
Il y a plein de dossiers dans les archives de l'Assemblée, hein. Les dossiers de la Hague, les dossiers de la CNDH, les dossiers de la Cour constitutionnelle.
Ouais.
Et puis à base, l'Assemblée elle-même qui oublie de pourvoir à certains de ses postes. Est-ce que tu sais que l'Assemblée n'a pas de premier vice-président?
Depuis qu'elle est.
Est-ce que tu sais que l'Assemblée n'a pas de deuxième questeur? Alors cette Assemblée qui oublie elle-même de pourvoir à ses postes en son sein là, on peut comprendre qu'elle oublie les autres postes.
Mais elle ne peut pas oublier les autres postes,
voilà.
Elle oublie chez elle. Alors que chaque année, l'année, il n'y a pas longtemps, ils ont voté un budget pour l'Assemblée nationale, alors que c'est le caisseur là qui doit gérer ce budget, et le caisseur n'est pas là.
Non, il y a le premier
caisseur, mais le deuxième caisseur n'est pas là.
Tu l'as rappelé,
mais c'est la loi.
Peut-être qu'ils ne trouvent pas en leur sein quelqu'un pour le remplacer.
Bon, jusqu'à ce qu'ils ont fini leur mandat.
Selon laquelle, à la CNDH, ça fait 5 membres sur 9. C'est-à-dire que le bureau, normalement, c'est 9, mais oui. Il ne reste que 5. 2 sont partis, certains sont décédés, et il ne reste que 5. Bon, je crois que c'est vraiment. Il est temps quand même de revoir, bon, même si on ne renouvelle pas, qu'on complète au moins.
Alors qu'il est démontré que une démocratie ne vit que par la solidité, la vitalité de ses institutions. Or, voilà la réalité de nos institutions. À part la présidence de la République, est-ce que vous connaissez encore une institution républicaine vraiment en place? L'Assemblée, c'est dans un mois, ils vont arriver au 31 décembre,
ouais.
Et puis leur mandat sera clos. Et je crains que des partis politiques ne soulève ce problème politique. Hein? Bon, on va voir.
Non, on verra, on est là, on verra. Ça fait partie du parcours politique de l'histoire de notre pays. On verra. Mais je crois que nous sommes des êtres humains. Et il y a toujours un palliatif à. Ils peuvent discuter. C'est pourquoi je parlais tantôt d'un certain nombre de propositions qu'a eu à faire le député Djeri Tama. Oui. Et moi, je les trouve pertinentes, qu'il faut en tenir compte, c'est-à-dire la concertation, les discussions, le fait de concerter les acteurs politiques pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Tout ça là, dans le but de faire en sorte que les élections soient transparentes.
Et justement, pour cela, il y a le cadre permanent de dialogue, de concertation.
Oui.
Les partis, certains partis politiques, ils sont... Oui. Je ne me rappelle plus les modalités de convocation, mais je pense qu'il est important, qu'une séance du CPDC se tienne rapidement,
oui.
Hein, pour que les partis politiques n'envoient pas de messages.
Tout ça là, c'est pour que le gouvernement marque quand même sa volonté, pour affirmer la volonté qu'il a déjà fait preuve de vouloir organiser des élections de façon inclusive. Parce que c'est très important.
Merci, il nous reste 8-9 minutes. Nous allons sur la confrontation que l'Assemblée nationale a organisée dernièrement entre les membres de la Cour des comptes et les membres du gouvernement mis en cause dans la gestion du fonds Covid pour la période 2020. Revue de presse rapidement avec le libéral qui trouve que ce fut un bel exercice de confrontation entre la Cour des comptes et le gouvernement devant le Parlement, pendant que l'étudiant des enjeux, lui, il voit plutôt un tiraillement entre la Cour des comptes et les ministres impliqués. Le Manant Libéré parle de confrontation et débat houleux entre acteurs impliqués et le rapport vivement attendu que nous produira la mission d'enquête ou la mission d'information parlementaire.
Oui, ce rapport est vivement attendu par l'opinion nationale et internationale parce que ce jour-là, le vendredi dernier, je crois, il y avait l'ensemble des partenaires et les gens, les institutions de la République, toutes les institutions même internationales qui étaient présentes pour suivre ce débat contradictoire entre les personnalités impliquées dans la gestion de ces fonds et la Cour des comptes. On cherchait à approfondir ou même les explications parce que selon la présidente de cette commission d'information, Madame Leguezin, elle a dit qu'auparavant, il y a quelques semaines, il y a déjà eu des auditions avec les ministres et les personnalités impliquées dans la gestion de ces fonds. Aujourd'hui, il manque certaines clarifications à faire, surtout sur la transmission du rapport provisoire. Et il faudrait faire comprendre à la population ce qui se passe. Mais lorsque vous suivez les débats à l'Assemblée nationale entre les membres du gouvernement et les membres de la Cour constitutionnelle, vous allez sentir qu'il y avait un peu de l'électricité dans l'air.
Mm-hmm.
Parce que quand les gens disent que la Cour a confondu les déclarations, les contrôles administratifs ou contrôles juridictionnels, c'était les deux mots qui revenaient sur les lèvres de tout le monde, alors que la Cour aussi donnait aussi ses positions et le gouvernement donnait ses positions. Je pense que c'est trop aller dans la théorie et il fallait parler en français facile pour permettre à la population de comprendre ce qui se passait.
Mm-hmm.
Et la présidente de la commission d'information a été obligée de demander à ses interlocuteurs de parler en français facile pour que la population comprenne mieux ce qu'ils sont en train de dire, parce que ce n'est pas entre eux, mais c'est pour que la population soit clarifiée, édifiée sur tout ce qui s'est passé dans la gestion de ces fonds en 2020. Aujourd'hui, tout est fini. On a vu ce qui s'est passé.
Non, tout n'est pas encore fini.
Ça continue, mais ce n'est pas que ça continue par la préparation de ce rapport-là,
oui,
qui sera présenté en plénière par la mission d'information. C'est là que nous avons dit que le rapport est vivement attendu.
Mais en attendant ce rapport, Fabrice, il faudra peut-être rappeler aussi bien à la mission d'information des députés qu'à la grande commission d'enquête, qu'à toute l'Assemblée, que cette affaire-là est déjà sur la place publique depuis de longs mois. La preuve, la dernière fois à la confrontation, il y avait, à part les députés, les ministres et la Cour des comptes, il y avait les médias, mais il y avait également les partenaires techniques et financiers du Togo. Il y avait même l'opinion qui était là, Alors, quand un débat est sur la place publique, ceux qui arbitrent devront tenir compte de tout ça dans leurs conclusions.
Ah, bien évidemment, je crois que l'opinion attend beaucoup de ça. Et j'ai l'impression que le gouvernement aussi s'est ressaisi. Je pèse bien mon mot, s'est ressaisi, parce qu'au début de cette affaire, on a voulu tout de suite court-circuiter les choses dans des communiqués pour dire que tout a été... Mais après, on s'est rendu compte que ça ne rendait pas service au gouvernement lui-même de court-circuiter l'affaire comme cela. Il fallait trouver des mécanismes pour qu'il y ait un certain nombre de transparence. Et je crois que ce débat-là, même si pour l'instant on n'a rien à mettre sous la dent pour dire que tel a pris ceci parce qu'on n'a pas encore les éléments de preuve, mais c'est quand même un bel exercice dans une démocratie. Et moi, j'ai suivi les extraits sur la chaîne nationale, mais les membres de la Cour des comptes, ils n'avaient pas froid aux yeux. Même s'ils n'ont pas répondu au communiqué que le gouvernement sortait en temps, ils n'avaient pas froid aux yeux, ils ont expliqué des choses. On a appris qu'on écrit à des ministères qui mettent 8 mois pour répondre ou ne répondent pratiquement pas au courrier. Et ça aussi, c'est un problème dans l'administration togolaise. C'est-à-dire que vous écrivez, on ne vous répond pas. Même si... Et c'est là comme ça. Alors qu'on a recruté plein de gens là-bas qui doivent quand même jouer ce rôle-là. Et ça, on l'a relevé. Et là, ça prend du temps sur certains éléments, même si ça prend du temps, il faut écrire, il faut répondre pour dire, voilà, nous accusons réception, mais voilà. Je crois que c'est des éléments qui ont manqué aussi, et il y a eu un climat de suspicion. Mais l'exercice en valait la peine. Le gouvernement s'est époumonné à expliquer beaucoup de choses. Mais j'ai aimé l'attitude également des membres de la Cour des comptes qui ne se sont pas laissés faire, comme on le dit chez nous, qui ont dû dire également des choses. Et je crois que ça donne du respect à cette institution. Il faudra que les autres institutions également emboîtent le pas, parce qu'on est là dans ce débat, on dit non, qu'on a nommé les gens, mais on ne leur donne pas la liberté de faire ci, de faire ça. Mais voilà, il y a des gens qui posent des actes. Nous sommes toujours dans le même régime. Donc, c'est trop facile de dire, bon, est-ce que le chef de l'État a accepté ou il n'a pas accepté? Pauvre chef de l'État à qui on attribue tout. Donc, ça voudrait dire que si les gens veulent, ont la volonté de faire, ils vont le faire.
Ils vont le faire. Alors, Bourayman, en attendant le rapport final, ça risque de se révéler une jurisprudence. On trouvera les formes, mais dorénavant, quand des personnalités ou bien des institutions se retrouveront mises en cause, il faudra organiser des tribunes pour que les gens s'expliquent et qu'on ne s'abrite pas seulement derrière le parapluie du chef de l'État pour se taire.
C'est tout à fait normal. En plus du fait de ce que le confrère vient de dire, moi j'aurais même souhaité que ce soit un débat public, hein. C'est-à-dire que public en direct, quoi, pas en différé, pour que nous puissions voir tout, comment est-ce que les gens vont répondre. Le confrère a dit quelque chose de très important, moi, qui m'a plu.
C'était en direct le vendredi.
Ah bon, qui m'a plu, parce que le fait que les membres de la Cour des comptes n'avaient pas froid aux yeux, lorsque vous regardez tous ces membres de la Cour des comptes, ils n'ont rien à perdre, si ce n'est de dire la vérité. C'est-à-dire la vérité sur ce qui est exactement. Et je pense que c'est un bel exercice. Comme vous l'avez dit, ça va constituer une jurisprudence.
Eh oui.
Et c'est très important. Maintenant, n'oubliez pas qu'il y avait eu un délai également qui avait été fixé à la commission aussi, je me rappelle.
45 jours, oui, 45 depuis jours le 6 octobre.
Passés. Voilà. Est-ce que ces 45 jours sont déjà passés?
C'est déjà écoulé.
Mais toujours est-il que ce qui s'est passé, moi je pense que c'est très important. Et il y a une remarque. Je ne sais pas si tous les Togolais ont fait cette remarque.
Eh bien,
les institutions, les partenaires techniques et financiers se sont présentés à ce débat.
Oui.
Ça, c'est un message très important. Les gens doivent comprendre que ce n'est pas de l'amusement, comme certains avaient commencé au début de cette affaire à vouloir faire avec des communiqués pour dire que non, c'est fini. Non, ce n'est pas de l'amusement. La présence de ces institutions prouve effectivement qu'on prend le problème au sérieux. Il faudrait faire la remarque là.
Merci. On va terminer avec cet article phare de Le Messager qui nous rappelle la visite que vient d'effectuer dans un lointain pays d'Asie centrale le chef de l'État. Le Messager qui titre « L'axe Lomé-Astana se renforce ».
Ah oui, je crois que pour ceux qui suivent les informations, l'actualité, le chef de l'État togolais est actuellement, on dit au Kazakhstan, c'est ça?
Non, c'est pas on dit. C'est toi qui as écrit.
Au Kazakhstan, pour pouvoir dans le cadre d'une visite officielle. Et c'est durant cette visite officielle, il a profité pour s'entretenir avec son homologue kazakh pour pouvoir discuter de comment renforcer les relations dans tous les secteurs. Et vous avez vu pour les images qui sont passées, vous avez vu comment il y a une séance de travail avec la délégation togolaise où il y a eu des échanges sur plusieurs secteurs au niveau de l'agriculture, au niveau du commerce et tout ce qu'il faut pour pouvoir apporter quelque chose, un plus au pays. Comme on le dit, aucun pays ne peut vivre en autarcie. Mm-hmm. Donc, en tant que premier responsable, je pense qu'il faut faire en sorte que le pays puisse bouger sur le plan économique. Et moi, je pense que c'est ce qui est fait. Maintenant, on attend de voir, à la fin de cette visite, qu'est-ce qu'on va pouvoir en profiter de cela.
Merci. Pour que le pays puisse qu'on peut pouvoir conclure provisoirement, en attendant les résultats de ce voyage du chef de l'État au Kazakhstan et un peu partout, le constat avéré, c'est que avec Faure Gnassingbé, le Togo diversifie ses partenariats.
C'est ce qui est important.
Et espérons seulement que les fruits de cette diversification nous confortent dans notre élan de pays qui se veut émergent. Il est midi passé de 1-2 minutes, nous marquons une pause et dans un moment, après l'obligation commerciale, les auditeurs pourront entrer en ligne en composant les deux numéros, le 22-21-33-74 ou le 91-36-63-75.
5. Eh bien, c'est parti. Nous avons parlé des questions de santé, notamment quelques articles de santé et éducation. On a revisité la relance du processus électoral avec les élections régionales et législatives en vue. Et puis, nous avons également revisité la confrontation qui s'est produite au Parlement entre des ministres et la Cour des comptes sur l'audit du rapport, sur l'audit de la gestion du fonds COVID. La parole est à présent à vous. Premier auditeur, bonjour. Oui, allô? Allô? Monsieur?
Monsieur Gado.
Oui, allez-y, monsieur Gado.
Bon, je voulais parler de la santé.
Oui.
Bon, vous savez, Togbe Dagba a fait sortir un communiqué que...
Allô?
La réponse du ministre de la Santé, mais je ne suis pas d'accord. Il voulait m'inviter. Et discuter avec lui calmement. Mais sans communiquer là. Non.
Donc, vous souhaitez une confrontation entre Togo Dagban et le ministère de la Santé sur l'efficacité du remède dont Togo Dagban dit qu'il guérit le diabète.
Oui, justement. J'avais même dit sur vos antennes que les gens là, bon, disons, ils ont créé de grandes fossés entre le gouvernement et la population. Ça ne respecte pas.
Okay. La communication n'est pas très bonne, mais on a compris l'essentiel.
Et je voulais vous être ministre. C'est quoi ça?
Oui, mais attention, monsieur Gado. Monsieur Gado, s'il vous plaît, je ne suis pas du corps de la santé, encore moins de la pharmacie, mais je crois savoir que pour ce qui est d'un médicament, il y a tout un processus dont il faut s'assurer afin d'éviter que, en voulant guérir une maladie, on ne vienne pas gâter davantage la situation. Mais nous rappelons la question donc au ministère de la Santé de trouver les canaux de rencontrer Togbe Dagban et de nous situer sur l'efficacité de ce prétendu remède contre le diabète. Le suivant en ligne, bonjour. Ah, il est parti, il va revenir. Oui, allô? Bonjour l'ami.
Oui, monsieur Sass, bonjour.
Oui.
Oui, effectivement, c'est ce que le ministre devait faire. Ailleurs, ça se fait. Au Ghana, ici, les produits de traduits se vendent dans le marché, dans les pharmacies.
Non, encore une fois, Sylvain, c'est une question de technicien. Laissons ça aux soins. Le ministre de la Santé, avec l'ordre des pharmaciens, les médecins, ils vont trouver une occasion d'inviter Togbe Dagban et qu'on se prononce un connaisseur sur le degré d'efficacité de ce médicament. Ou bien de ce remède, s'il vous plaît. Ok, passons à un autre sujet, s'il vous plaît. Oui. Allô?
Repousser là.
Il y a un problème dans les lignes. Allô? Ce matin. Oui.
Pour les élections repoussées au premier trimestre là.
Oui.
Est-ce que, pourquoi ne pas coupler cette élection avec les élections présidentielles à 2025? 2024, on va nous appeler à aller voter. Après 12 mois, on va encore appeler les Togolais à aller voter.
Donc, vous aurez souhaité qu'on coupe là les régionales, les législatives et avec même la présidentielle. Et peut-être même ajouter les municipales parce que c'est déjà imminent aussi.
Pourquoi pas?
Ok.
Moi, le candidat pour une seule élection présidentielle. Et je vais mettre tout le monde au chaos.
Ah, vous êtes candidat?
Ah, mais oui.
Ok. Attendez le moment du chronogramme de la CENI pour déclarer votre candidature. Merci beaucoup. Le suivant.
Bonjour, mon commandant.
Bonjour, Patrick.
Comment vous allez ce matin?
Ah, comment vous nous écoutez?
Merci. Le PR au Kazakhstan, c'est très beau. Vous l'avez si bien dit. Mais je me rappelle, quand le président turc était au pays ici, Erdogan, on avait débattu sur ça. Qu'est-ce que cela va apporter aux Togolais? C'est ça la question. Le PR est allé au Kazakhstan, c'est pour nouer des relations pour qu'on puisse en bénéficier. Mais dans mon panier, depuis que le président turc était venu, bon, dans mon panier, particulièrement moi, je n'ai rien ressenti. Si ça a ressenti quelque chose, c'est bien.
Non, donc, parlez pour vous.
Pardon?
Parlez pour vous.
Donc, c'est notre souhait de son retour pour qu'on nous dise que voilà, tel prix a changé, voilà, c'est ça que nous voulons. Ce n'est pas aller revenir, ça va rester comme ça. Bon. Je ne vois pas l'intérêt. Secondo, M. Sass, sur cette même antenne, je vous ai apporté une information entre-temps. Et Dieu merci, au lendemain, ça s'est corrigé. Je reviens sur la même chose. Faites encore un tour au niveau de l'ambassade du Sénégal, au niveau du pavé, boulevard de la Cara. Vous verrez encore le drapeau. Ce n'est pas parce que le président s'appelle Macky Sall que le drapeau doit être sale. C'est anormal. Faites un tour au niveau de la plage, au niveau du siège de l'EcoBank. Il y a plus de 50 drapeaux, mais les drapeaux sont toujours propres. Toujours propres. Malgré la mer avec de l'eau salée, c'est toujours propre. Mais faites un tour au niveau de l'ambassade. Vous verrez l'état dans lequel leur drapeau se retrouve.
Donc, vous voulez dire que le drapeau qui flotte au sein de l'ambassade du Sénégal n'honore pas ce grand pays d'Afrique?
Pas du tout. Okay. Faites un tour, c'est à côté là-bas.
Monsieur l'ambassadeur, regardez un peu le drapeau que vous avez hissé au mât de votre ambassade et revoyez la copie, s'il vous plaît. L'auditeur suivant, bonjour.
Allô?
Oui.
Bonjour, monsieur Sata.
Bonjour.
Benoît Dagouet.
Oui, allez-y.
Moi, je voulais revenir sur le compte rendu du Conseil des ministres.
Oui.
Et ce qui se fait dire que la ministre avait dit que le recensement général est, comment dire, l'enrôlement des électeurs représente les 51% des recensements
généraux. Non, non, ce que j'ai entendu, c'est que le fichier électoral fait au 51,39% de la population recensée en 2022.
Ok. Quand on dit population là, y compris les Libanais, les Béninois, les Ghanéens, les enfants aussi. Donc les électeurs représentent 51%. Bon appétit.
Ah, vous avez conclu vous-même? Ok, merci beaucoup.
Oui, allô?
Nous passons au suivant, oui, bonjour.
Oui, bonjour Sass, comment ça va?
Ah, Didier.
Bonjour au plateau.
Le plateau vous salue.
Oui, mais ça, moi j'ai l'impression que dans notre pays, on banalise tout, nous ne nous prenons pas au sérieux. Nous avons des séances constitutionnelles qui sont prévues par la Constitution, qu'à telle date, ils ont déjà fait les élections. Un gouvernement qui s'amuse à faire un décalage, et puis on vient justifier. Qu'est-ce que nous apprenons à nos enfants à la maison? Quelle éducation donner à ces enfants? En plus, au lieu de condamner le gouvernement, c'est pas normal. Depuis l'entrée en fonction des députés, le gouvernement n'est pas responsable, qui dit responsable, doit savoir que Attal Dadi doit faire les élections. Mais pourquoi ça faut au Togo, c'est comme ça que nous faisons? Et puis les gens viennent, ils justifient, ils banalisent. Mais vraiment, ce pays, vraiment, des fois, je vous dis, je me demande des fois pourquoi Dieu m'a mis dans ce pays, quoi. Je la cuise aussi.
Didier.
Merci beaucoup.
Didier.
Hein. Oui.
Dieu vous a mis dans ce pays parce que c'est le pays dans lequel vous allez prospérer le mieux.
Nous banalisons les trucs comme ça.
Non,
dit, non c'est pas normal.
Sinon, vous avez raison.
Mais est-ce que ce qu'on donne à l'éducation qu'on donne à nos enfants?
Oui, Didier, mais il y a quand même un petit flou. Nous savons le mandat de nos institutions. Sinon, comme Fabrice l'a relevé, il n'est pas ancré dans la Constitution les dates précises auxquelles... Ceci doit se faire, contrairement aux États-Unis d'Amérique.
Les députés ont un truc de 5 ans, ils ont fait les élections à telle date, on doit le faire à telle date. Pourquoi ne s'amusent pas à le faire pour les élections présidentielles? C'est ça, pourquoi ils ne s'amusent jamais à le faire
mais
avec
Didier,
ça?
Mais Didier, même la présidentielle ne se fait pas à date fixe. Hein.
Oui, mais c'est pas normal.
Oui.
C'est pas normal.
C'est peut-être l'occasion de faire une réforme de la Constitution.
Mais les trucs se passent à date.
Oui. C'est peut-être l'occasion de faire une réforme de la Constitution et d'immortaliser les dates de début et de fin de mandat de nos institutions.
Et vous êtes ceux qui vont le faire, ce gouvernement va le faire.
Commençons par en parler, ça se fera un jour.
Mais après, quand ça les arrange, ils vous le feront. C'est ça le problème du Togo. Les trucs sont faits à la tête des gens qui sont payés. Merci.
Je vous en prie, Didier.
Allô?
Oui, bonjour.
Jacques, vous m'avez coupé, monsieur Gado.
Ok, bon retour.
Bon, ok, merci. Mais je voudrais que vous passiez la vidéo de passation de service de Yoya à tout le gouvernement et à l'opposition. Vous aurez envie d'être libéré aujourd'hui. Merci, bonne journée.
En tout cas, en attendant de voir cette vidéo-là, je suis quand même fier d'être Togolais. Je sais qu'il y a des problèmes. Mais quel est le pays du monde où il n'y a pas de problème? Et montrer son amour pour son pays, c'est être conscient des problèmes et travailler à les régler. L'auditeur suivant, bonjour. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour à vous. Notre ami n'a pas le retour. Ok, un autre va entrer en ligne. Allô, bonjour. Allô? Oh, un petit souci.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Ouais, c'est Senghor. Hein.
Ok.
Bon, vous savez, quand vous, les journalistes, vous parlez de l'Assemblée nationale, est-ce que nous avons une Assemblée nationale fiable au Togo? Non. Nos parlementaires sont là pour servir le régime. Vous voyez. Ils sont là pour servir. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de bon? Vous voyez. Deuxièmement, M. Sass. Depuis 98, où les élections ont commencé dans ce pays-là, et qu'est-ce que ça a donné de bon?
Non, les élections ont commencé en 1993, s'il vous plaît. Monsieur Senghor.
Hein, pour qu'on aille aux élections, est-ce que lui-même il a pu chercher à savoir si les fichiers électoraux, tout ça là est bon? Non! Vous voyez, non, il faut que vous êtes les journalistes, quand vous êtes au plateau là, il y a certaines choses que vous allez dire avec, que ce soit bon pour les Togolais. Ouais, non, on ne peut pas comprendre vraiment ce pays. On se pose la question si, depuis là, on n'est pas fatigué avec des élections d'une manière. Bon, je m'arrête ici, que Dieu bénisse le Togo.
Monsieur Senghor, je vous rappelle que les premières élections de l'ère démocratique, c'est en 1993, et je vous rappelle que depuis jusqu'à ce jour, ce sont des Togolaises et Togolais qui sont candidats, et ils sont élus par des Togolaises et des Togolais. Maintenant, à la fin de chaque mandat, vous saurez apprécier et le travail que vous ont fait vos élus et vous les renouvelez ou vous les sanctionnez par les urnes. Le suivant, bonjour.
Oui, bonjour, c'est ça.
Oui.
Monsieur Kofi.
Monsieur Kofi.
Oui.
Nous vous écoutons.
Je vais aborder le sujet des institutions.
Mm-hmm.
Vraiment, ça fait mal. Je prends le cas de la HAC. À chaque moment, la HAC sort des communiqués pour rappeler aux musiciens qui leur autorisation arrière terme dans tel jour, dans telle période, qui doit renouveler. Pour de quoi les médias sont suspendus ou bien les autorisations sont retirées. Mais les membres qui ont vu leur délai expirer, qui les sanctionne? Pourquoi eux ils appellent le délai? Ce sont des incongruités. Il faut que les choses marchent normales, que ça ne se fasse pas à la paix du client. Non, le pays ne peut avancer dans cette situation. Il faut que toutes les institutions reflètent les Guinéens. L'Assemblée nationale, lève des postes vacants. Personne ne dit rien. Mais quand il s'agit du bas peuple, des citoyens, on réagit tout de suite. Et sans délai. C'est pas logique. Merci beaucoup.
Merci. C'est des constats que nous rapportons tous les jours dans nos colonnes, à nos plateaux d'émission. Mais nous n'avons pas la décision. Tout ce que nous pouvons faire, c'est attirer l'attention de qui de droit là-dessus. Mais c'est un constat quand même qui ne grandit pas notre pays. Dernier auditeur aujourd'hui, bonjour.
Allô.
Oui.
Bonjour.
Bonjour.
Je vous appelle de Samdaba.
De
Samdaba.
C'est au Togo?
Oui, c'est dans la préfecture, juste à quelques mètres de.
À proximité de Saint-Cassé, à quelques mètres du Burkina Faso.
Oui.
Eh bien, nous vous écoutons, cher ami.
Nous voulons être vraiment avant.
Malheureusement, la communication n'est pas très, 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 très bonne. Allô? Oui.
Nous, ici, voulons être en sécurité avant.
Ah, vous voulez être en sécurité avant d'aller voter?
Oui.
Ça veut dire. Allô? Non, j'aurais bien aimé l'écouter, hein, Kabor, quand il nous appelle d'une localité à quelques mètres du Burkina Faso, c'est très loin. Nous aurions aimé connaître sa préoccupation, mais la technique n'est pas avec nous. C'est vraiment dommage. Eh bien, chers amis, vous avez écouté les auditeurs. Un tour de table pour donner votre impression sur la préoccupation de l'un ou de l'autre. Une minute, Bourema.
Non, je crois que moi, je prends le dernier intervenant. C'est vrai qu'on n'a pas pu l'écouter en totalité, mais j'ai cru entendre que nous voudrions vivre en sécurité avant de pouvoir voter.
Oui.
Donc, cela voudrait dire ce que nous sommes en train de dire tout à l'heure, qu'il faudrait prendre toutes les dispositions parce que au Grand Nord, tout n'est pas encore serein. Pour que non seulement les gens puissent aller voter, mais également pour que la campagne électorale puisse se dérouler de façon très sereine. Mm-hmm. Donc je pense que les gouvernants nous écoutent et ils ont vu. Moi, j'ai aimé le fait que ce soit quelqu'un de là qui puisse nous téléphoner. Ça veut dire que c'est un peu préoccupant et il faudrait tenir compte de tous ces paramètres dans ce que nous sommes en train de faire ou bien là où nous voulons aller avec ces élections. Il faudrait tenir compte de tous ces paramètres, que tout le monde puisse exercer leurs droits et qu'il faut prendre les dispositions pour sécuriser quand même le pays. Et moi, je pense qu'avec ce qui est en train de se passer, c'est un paramètre que les gouvernants ont pris en compte et que les acteurs politiques également doivent y penser pour pouvoir savoir. Je reviens et j'insiste là-dessus par rapport à ce que le confrère Fabrice avait dit, le fait que lorsque vous allez au Grand Nord, il faudrait prendre une autorisation au ministère de la Sécurité, parce que quand c'est comme ça, ça veut dire qu'il n'y a pas totalement la sécurité, comme on le dit, et qu'il faudrait prendre les dispositions là-dessus.
Mais je regrette qu'on n'ait pas pu bien écouter notre ami, mais son appel nous conforte que le club de la presse est effectivement écouté un peu partout sur le territoire national. Reste que la technique nous accompagne effectivement.
Si tu permets, je termine par un carton.
Okay,
le carton est adressé justement, parce que je l'ai toujours fait, adressé justement à la population de cette région qui vit vraiment des moments très difficiles. Mon carton est un carton vert pour leur dire de solidarité, pour leur dire que nous sommes de cœur avec ces populations-là.
Merci. Fabrice?
Non, bon, je crois que ça faisait longtemps quand même que il y avait un débat ici et là sur à quand les élections. Bon, maintenant que les choses se précisent, je ne sais pas pourquoi les gens reviennent sur un débat et surtout qu'on sait que quand dans ce pays ceux qui réclament les élections, parfois quand on les programme, parfois c'est les mêmes qui demandent qu'on repousse pour ceci ou cela, ou qui les boycottent carrément. Donc je crois que nous sommes à l'apprentissage de la démocratie. Effectivement, nous tendons un jour à ressembler au grand pays où tout se passe plus ou moins normalement, où on a une idée plus ou moins claire des échéances électorales. Mais pour l'instant, dans la mesure où au moins on a quand même la certitude qu'on va organiser ces élections-là dans le premier trimestre de la nouvelle année, pour moi, ça devrait être pris. Et puis, il ne faudrait pas, quand les gens vivent à Lomé, il faudra comprendre aussi que le Togo ne se limite pas à Lomé. Ailleurs, la façon dont nous circulons librement, nous restons dehors à n'importe quelle heure et tout cela, c'est pas de la même manière d'autres Togolais vivent dans d'autres coins du pays. Donc, un État, ça s'organise de façon globale. Ça ne prend pas seulement une partie. Il ne faut pas rester dans son quartier et croire que tout va bien pour l'ensemble.
Merci. Merci à cet auditeur qui nous rappelle que le dernier auditeur appelait effectivement du village de Samnaba. Et c'est vrai, c'est à quelques kilomètres de la frontière du Burkina Faso. Ça nous conforte encore une fois. Abba Sissaka ?
Oui, et puis la zone dans laquelle il a appelé, c'est cette zone qui est en insécurité totale. Où
bon,
des attaques...
en insécurité.
Des attaques sont.
Parce que nos forces de sécurité font quand même l'essentiel pour nous mettre en sécurité.
Parce que lui, il sait ce qu'il vit là-bas. Il sait ce qu'il vit quand il a dit qu'il veut voter lorsque. Il y aura sécurité chez lui. Donc il faudrait que aussi on prenne en compte ces doléances de ces populations. Je pense que c'est par rapport à ça que le gouvernement au moins a tenu à voir pour maîtriser la sécurité totale à ce niveau-là, pour envoyer, pour projeter les élections pour le dernier trimestre de l'année 2024. Donc il faut qu'on soit un peu patient. Et donc, tous ceux-là qui critiquent, qui disent faire ceci, faire cela, au lieu de se préparer pour aller aux élections, il faut qu'on arrête certaines polémiques qui n'ont même pas de raison d'être, que les uns et les autres dans les états-majors se préparent pour dire je vais aller à ces élections parce qu'il faudrait qu'on ait aujourd'hui une assemblée équilibrée, une assemblée dans laquelle tout le monde peut donner ses opinions et qu'on ne peut pas dire que ceux qui sont élus en 2018, c'est des députés qui ont été désignés ou qui ont été nommés. Donc, si vous voulez aller aux élections, qu'on arrête les polémiques inutiles.
Et qu'on se prépare.
Qu'on se prépare pour les élections. Les élections, c'est projeté pour le premier trimestre de l'année 2024. Mm-hmm. Tout le monde doit être prêt à y aller. Malgré, on a relevé quelques inquiétudes. Ces inquiétudes vont être réglées, je l'espère.
Merci beaucoup. D'ici là, Gadir Tchagna dit, il faudra prendre les dispositions pour être en bonne santé.
Effectivement, donc on a beaucoup parlé de la sédentarité. Il faut que tout le monde prenne ses dispositions pour garder la bonne santé. Mais j'aimerais répondre sur cette affaire de guérison de diabète, mm-hmm. et ce jeu de ping-pong entre qui de droit et autres. Vous savez, je ne pense pas que telles que les choses sont en train d'être faites, cela va arranger l'opinion nationale et cela va arranger l'affaire de santé au Togo. Donc, il faut que l'autorité prenne ses mesures. Il y a quelqu'un qui dit qu'il guérit le diabète. Il y a des procédures, il y a des normes qu'il faut suivre. On peut inviter le monsieur et puis voir ce qu'il y a à faire pour que cette affaire soit close. Sinon, tel que ça va, ça arrive de faire plus de mal que du bien.
C'est fini pour aujourd'hui. Le Club La Presse, nous nous retrouvons demain, jeudi, à 11h, si Dieu le veut, et prions que Dieu le veuille et que nous soyons tous en bonne santé pour nous accompagner au jour le jour.
Prenez nos deux confrères, parce qu'il faut toujours terminer par là.
Ah, tu es arrivé en retard.
Oui.
Sinon, on a commencé par eux.
Ah, d'accord, nos deux confrères qui sont... Et on prie, hein, on prie.